Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans À votre avis, la nouvelle émission interactive de VO Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Études littéraires ou scientifiques, que choisir et pour quel débouché? C'est le sujet de À votre avis ce mardi. Nous vous donnons la parole dans À votre avis ce soir. Donc, vos commentaires et réactions sont attendus sur Facebook et en direct au 001-202-619-31-40. Pour m'accompagner au cours de cette émission, je reçois, il est Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors, votre présence dans ce studio se justifie par le fait que vous avez réalisé, vous avez fait partie de l'équipe qui a réalisé à la Silicon Valley un projet, un reportage sur ces jeunes-là qui font cette Silicon Valley et qui sont, on va dire, des futés des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. Un mot sur ce projet.
Oui, c'est un film. La question, c'était de savoir, quand on parle des nouvelles technologies, on parle de Google, on parle de Facebook, on parle de Twitter. Est-ce que dans ce monde-là, est-ce qu'il y a des Africains? Si oui, comment est-ce que ils se comportent? Comment est-ce qu'ils se comportent par rapport aux autres groupes? Parce que bon, on s'est dit, il y a beaucoup d'Indiens, bien sûr, dans la technologie là-bas. Il y a beaucoup d'Américains, bien sûr. Et qui sont ces Africains-là et comment ils se comportent? Sur quel genre de projet ils travaillent? Donc, c'était ça l'idée du film. Qui est presque terminé d'ailleurs.
Alors, cela nous amène donc à la question du jour. Études littéraires ou scientifiques, que choisir et pour quel débouché? En fait, vous, qu'est-ce que vous aurez choisi, vous?
Moi, j'ai fait mon bac A. Si je devais reprendre, peut-être que j'allais toujours faire le même bac A. Parce que la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie. Donc, on peut envier un scientifique, on peut envier un ingénieur, mais si on ne se sent pas dans la peau d'un ingénieur, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est toujours faire ce qu'on veut, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime faire. Et avec ce genre de choix, ça vous donne de la passion. Et avec la passion, on peut aller très loin dans la vie.
Voilà, on a peut-être la chance dans cette émission d'avoir deux auditeurs qui nous parleront de leur carrière, mais aussi de leur choix professionnel. On va aller au Cameroun. Mireille, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes, il me semble, enseignante de français ou de littérature. C'est bien cela?
Oui, enseignante de langue française, dont littérature et langue.
Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit de faire ses études dans ce domaine-là et pour quel débouché?
C'est une histoire de passion. Quand vous êtes passionné, vous vous lancez à faire la langue. Ça peut être la langue française, ça peut être la langue anglaise, ça peut être la langue espagnole ou allemande. Alors, moi, je me suis lancée dans la langue française. Donc, j'ai un baccalauréat A et une licence A4 en lettres modernes françaises.
Alors, vous avez
là, quand vous faites...
Oui, allez-y.
J'ai dit, quand on choisit de faire la langue française, par exemple, on étudie l'histoire de la littérature française, la littérature en général française, camerounaise, américaine. On choisit de le faire et on cherche à maîtriser les rouages de la langue, dont la grammaire, la conjugaison, ainsi de suite.
Alors, mais lorsqu'on a fini d'étudier, c'est le problème qui se pose souvent, c'est qu'après, on ne trouve pas de travail. Vous avez peut-être la chance, vous, d'avoir un travail. Quels sont les débouchés aujourd'hui dans ce domaine-là, à votre avis?
Il y a plusieurs débouchés lorsqu'on a terminé de faire ses études. On peut s'installer à son propre compte, on crée une entreprise, par exemple. On fait dans le journalisme, on produit des articles qu'on propose à une ONG sur un plan, sur un projet précis.
Tout à fait.
Par exemple, si on parle de la littérature, on peut proposer aux jeunes comment écrire la langue française. Comment éviter la cyber-écriture qui prévaut de nos jours?
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, vous restez avec nous, Mireille. On va prendre Hassan Omar. Hassan, bonsoir.
Oui, en ce qui concerne le sujet, moi je crois qu'il faut, on en a besoin dans le littéraire et le scientifique, surtout dans le continent africain, parce que l'Afrique elle a de l'histoire, donc le littéraire vont tracer l'histoire de l'Afrique. Scientifique, on en a besoin parce que l'Afrique cherche le développement et l'émergence dans les prochaines années à venir. Donc, les scientifiques et les littéraires, c'est très important. Ce sont des éléments qui ont sont primordiaux dans tout continent, et surtout dans ces pays et ces continents qui cherchent l'émergence dans un avenir proche.
Voilà. Hassan, vous pouvez rester avec nous également. On va peut-être prendre Eric. Eric, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes plutôt scientifique. Qu'est-ce qui justifie ce choix?
Bon, ben, d'emblée, je vous ai dit que nous devions au maximum éviter les discussions puériles du secondaire où nous pensions, n'est-ce pas, à l'époque, que les scientifiques étaient supérieurs aux littéraires. Il est plutôt question pour nous ici d'analyser le bien fondé, n'est-ce pas, d'inciter les apprenants à s'engager dans des études scientifiques et techniques dans nos pays en voie de développement, mais pas nécessairement tout en sachant que toutes ces disciplines s'abreuvent toutes à une certaine rationalité scientifique, caractérisée par une certaine rigueur, un esprit d'observation, dénué, n'est-ce pas, de toute subjectivité, voulais-je dire. Mais il se pose donc un problème. Est-ce qu'en Afrique, nous avons, n'est-ce pas, des outils, que dis-je, des environnements adéquats aux études dites scientifiques. Parce que nous avons l'impression qu'en Afrique, nous sommes plutôt sujets à des savoirs morts. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apprendre là? On va nous apprendre, n'est-ce pas, à manipuler, n'est-ce pas, par exemple, que dirais-je, par exemple, mathématiques, la racine carrée d'un nombre, sans vraiment savoir l'application des racines carrées dans la vie courante. Et je crois à ce niveau que c'est là où se situe, par exemple, le système camerounais, qui, n'est-ce pas, en train de déconstruire cette approche en s'alignant sur l'approche dite par compétence, où il est question plutôt de développer des compétences. Ceci étant dit, pourquoi nous avons choisi les études scientifiques? J'avais des prédisponibilités, je me sentais à l'aise beaucoup plus dans ces études scientifiques, sans avoir rien à perdre face aux scientifiques, aux littéraires de l'époque, si vous voulez bien. Mais je vous assure qu'il n'est pas aisé dans nos environnements, n'est-ce pas, de mener ces études type scientifique. Alors, généralement, il est plus facile pour le parent de jeter sur vous son dévolu, que dis-je, son action manquée. Je voulais devenir médecin, je voulais devenir ingénieur, alors sur mon fils, je verse sur lui mes pensées. Alors, toi, tu as fait ci. Voilà ce qui caractérise généralement en Afrique les choix. Donc, c'est pas le mimétisme, c'est pas obligation des parents.
Voilà, vous restez avec nous, Eric, parce que j'aurai une question après cela. Bagassi Koura, le problème aussi qui se pose en Afrique, c'est que très souvent, lorsqu'on a choisi de faire des études scientifiques, il manque des laboratoires dans des lycées ou des universités, il manque d'ordinateurs, il manque d'outils, comme Eric le disait tout à l'heure. Comment faire face à tout cela?
Oui, ça c'est des questions qui restent. Hein. Bon, on a la chance aujourd'hui que la formation ne se limite plus au public. Hein. Les universités publiques dont on connaît les problèmes, les grèves, le manque de moyens et tout, il y a de plus en plus d'universités privées. Et bien sûr, l'autre question c'est de savoir combien de gens peuvent se permettre d'aller dans ces écoles privées. Pour revenir à la question initiale, est-ce qu'il faut faire des études littéraires ou des études scientifiques? Avec ce problème que vous venez de poser, on se rend compte que il n'y a pas une réponse toute faite. Vous pouvez faire des études scientifiques, mais si, en fin de compte, vous n'avez pas les laboratoires qu'il faut et toutes sortes d'équipements pour faire des expériences, ça peut ne pas vous servir à grand-chose. Donc, moi, je pense que c'est au cas par cas, chacun verra ce qu'il lui faut dans la vie, ce qui est disponible dans sa région comme formation et ce qui est meilleur, chacun pourra faire son choix.
Alors on va prendre cette réaction de Boniface Zongbosi qui dit « Les sciences constituent le socle de tout développement, surtout que nous sommes à l'ère de la technologie, tandis que les études littéraires sont nécessaires à tous. Donc, c'est dire que tout scientifique peut acquérir les connaissances littéraires. » Eric, je reviens vers vous. Est-ce que aujourd'hui les États africains ont les moyens de vraiment pousser les étudiants, les élèves à s'intéresser au domaine scientifique, quel qu'il soit, quand on sait, comme je le disais tout à l'heure, que nos universités parfois n'ont pas d'ordinateur, de laboratoire, comment résoudre cette équation?
Oui, merci. Nous disons déjà que chaque État développe les moyens scientifiques en fonction de ce dont il dispose. Dans le cas précis du Cameroun, par exemple, nous avons commencé là par des micro-sciences, avec des micro-laboratoires, où nous pouvions, n'est-ce pas, montrer aux enfants, aux apprenants, n'est-ce pas, des micro-expériences, et cela a porté bien ses fruits. Et nous sommes partis par des logiciels, je pense à des logiciels de laboratoire, par exemple, pour essayer de faire de manière théorique, n'est-ce pas, ces enseignements-là. Nous pouvons aussi dire que de plus en plus, avec le développement des TIC, nos états, n'est-ce pas, et les connexions WhatsApp et tous les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus amenés dans un environnement technologique qui puisse permettre, n'est-ce pas, le développement des études scientifiques. Il est à noter qu'il y a une certaine volonté politique dans nos états. Parce que nos états se sont rendus compte qu'ils ont passé le temps à développer, n'est-ce pas, la bureaucratie. Cette bureaucratie était, n'est-ce pas, la première chose à mettre en place pour pouvoir remplacer le colonisateur ou bien l'Européen qui devait partir. Maintenant que nous pensons au développement, on se rend compte qu'il faut axer beaucoup de moyens dans la recherche scientifique et technique. Et ça se voit bien aujourd'hui, nous voyons les prouesses des jeunes Camerounais, n'est-ce pas, nous pensons à ceux de Polytechnique Yaoundé qui font des prouesses en matière je vous fais grâce des matières scientifiques sur le plan médical, vous connaissez bien avec le jeune Zang, ce qu'il a mis en place. Et vous voyez, les États de plus en plus mettent assez de moyens, peut-être pas à la hauteur des laboratoires d'outre-mer, d'outre-Atlantique, mais nous pensons que la volonté politique y est, et parce que si nous prenons le plan agricole, de plus en plus la recherche agricole est mise en valeur sur le terrain, et nous disons que le temps que nous avons mis pour former cette bureaucratie, si ce même temps et ces mêmes ressources sont allouées pour former, n'est-ce pas, la recherche scientifique et technique,
On avancera beaucoup plus. D'ailleurs, dans ce domaine, il y a une initiative qui existe en ce moment, c'est Next Einstein. C'est cette organisation-là qui a donc pour but, n'est-ce pas, de former les scientifiques africains de demain. On va prendre au téléphone Yugu Wapi. Wapi, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs aussi, bonsoir monsieur le journaliste.
Alors vous dites que les études scientifiques c'est bien, mais que en Afrique on n'a pas les mêmes possibilités qu'à l'étranger. Comment cela?
Oui, comme je l'ai précisé dans mon commentaire, comme vous le dites, en Afrique vraiment on a bien la volonté de créer les scientifiques chez nous, ça existe très bien, mais le niveau c'est limité. Ce n'est pas comme celle de l'étranger. Ce qui fait qu'en Afrique, on a des écoles de scientifiques chez nous. Même ici à Yaoundé, il y en a des écoles de scientifiques. À Yaoundé, il y en a, ça existe très bien. Mais ça ne se ressent pas sur le plan même de la société. La société ne ressent même pas cela que son existence. Ce n'est même pas ressenti. Et je vois celle de l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon commentaire, vous voyez, c'est différent avec la nôtre. Vous voyez, les études secondaires en Europe ne sont pas comme celles de l'Afrique, ici chez nous en Afrique. C'est deux mondes différents. Ce qui fait que chez nous, c'est le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit prendre vraiment ces enjeux. Le gouvernement ne doit pas négliger les simples choses, les simples trucs comme l'Afrique d'abord même a besoin de la science, puisque en Afrique la science n'est même pas dans les normes même des choses en fait.
Voilà. Alors, on va prendre. Merci beaucoup, Wapi. On va prendre encore Hassan Omar. Hassan, aujourd'hui, quand on parle science, on évoque très souvent, et c'est le cas de le dire, Internet. Est-ce que aujourd'hui, les pays africains ont les moyens de se doter de cet outil qui facilite quand même les sciences, Internet en Afrique?
Oui, l'Internet en Afrique, il se développe de plus en plus. Et la connexion, surtout dans les sphères des jeunes, c'est-à-dire la jeunesse, elle est très, 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 très poussée dans ces domaines-là. Dans l'Internet, elle l'utilise, surtout les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter. Donc, tout est, donc c'est très important. Mais il faut faire avancer, il faut mettre en place des institutions publiques qui aident et qui soutiennent financièrement tous ces moyens-là. Donc, oui, il faut développer. Et ça permet aussi, c'est un moyen de se doter de connaissances et de savoir-faire, mais également c'est un moyen de découvrir le monde. Donc voilà, l'Internet c'est important pour l'avenir et pour le continent africain dans sa quête de recherche et de développement.
Voilà, puisque vous parlez d'Internet, je vais revenir vers Eric Abaté. Il me semble que dans l'une des parties du Cameroun, aujourd'hui il n'y a pas Internet depuis quelques mois. Comment est-ce que cela peut affecter un domaine comme celui-là des sciences?
Écoutez, Internet est un outil d'apprentissage. Et qui parle outil revêt habituellement face des réalités. Et pourquoi nous sommes d'accord sur cet outil d'apprentissage? La première réalité, c'est que c'est un dispositif technique. La deuxième réalité, c'est des processus. Et la troisième réalité, c'est des usages. Alors, l'outil d'apprentissage revêt trois réalités, les dispositifs techniques, les processus et les usages. Quels sont les usages que nous en ferons de cet outil d'apprentissage? C'est là où on se pose donc certainement le problème, n'est-ce pas, de la partie dont vous avez cité plus haut. Vous voyez, il est question pour nous de savoir qu'un outil d'apprentissage revêt trois types de réalités. Qu'est-ce que nous faisons de ces trois types de réalités? Et c'est à ce niveau peut-être qu'il est important de sensibiliser ces populations sur les usages d'Internet. Que ferons-nous du usage de l'Internet? Alors ça fait comme si à la maison, vous déposez Internet à la maison, votre enfant vient taper sur Internet et tape n'importe quoi et tombe sur des scènes obscènes. C'est pas vous qui avez mis à la de votre enfant les scènes obscènes. En mettant cet outil d'apprentissage, vous n'avez pas prédit qu'il va passer par des scènes obscènes, par exemple. Vous convenez? Alors, il est donc question pour nous de sensibiliser nos populations, n'est-ce pas, sur ces outils d'apprentissage. Les trois réalités de ces outils. Mais alors, malheureusement, nous avons commencé par mettre la charrue avant les bœufs, nous avons donné des outils. Nos populations ne sont pas formées à l'utilisation de ces outils, ou bien fournir ces outils. Et nous tombons dans ces dérives.
Voilà, c'est ce qui est dommage. On va prendre à Bamako, on va aller à Bamako au Mali pour retrouver Diarra Kaknoumé. Bonsoir.
Et bonsoir à toutes les rédactions de VO Afrique.
Alors, études littéraires ou scientifiques, que choisir et pour quel intérêt, pour quel débouché?
Ok, merci de me donner la parole. À mon avis, je pense que les parents, les moments que j'ai fréquentés par commencer jusqu'à l'école primaire jusqu'à secondaire, jusqu'à venir dans le lycée. Donc, branche que moi j'ai pris, c'était littérature. Je pense qu'à mon avis, même si les autres ont choisi la science, mais tu n'es pas branche de science en tant que tu n'es pas étudié tous les deux, comme la littérature. Donc, à mon avis, je pense que aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, la jeunesse africaine est vraiment, ils ont des courage pour faire les études, mais si ils avancent pour venir dans l'université ou bien dans les lycées, vraiment, il y a beaucoup de problèmes là-bas.
Voilà.
À mon avis, je pense que le gouvernement doit faire face à cette situation aujourd'hui.
Alors, Bagassi Koura, on va essayer de faire une comparaison. Ici, par exemple, aux États-Unis, il ne se passe pas de jour sans que quelqu'un publie un livre et il ne se passe pas de jour aussi sans que tel crée une application. Pourtant, nous qui avons fait de la littérature en Afrique, très peu de personnes lisent ou écrivent et on a du mal à créer des applications. Il y a quelques génies qui se lèvent. Qu'est-ce qui explique ce fossé-là?
Bon, il faut dire que c'est le contexte qui est différent. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a une certaine avance, bien sûr, où il y a la consommation, il y a le niveau d'éducation est assez avancé, le pourcentage des gens qui savent lire et écrire est assez élevé. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, et même souvent, quand vous écrivez, c'est difficile de vous trouver un éditeur qui veuille bien vous éditer. Et donc, on évolue sur le continent quand même dans certaines difficultés, il y a certaines réalités là-bas qui freinent une certaine avancée. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faudra tendre vers un système où avoir fait des études littéraires ou scientifiques ne doit pas constituer en sorte une zone cloisonnée. Je veux dire, avoir un bac A et puis devenir un chirurgien, ça ne devrait pas être aux États-Unis, ça se fait. Si vous venez, vous arrivez ici avec un bac A de N'Djamena ou de Yaoundé, vous pouvez rapidement vous reconvertir et faire la médecine. Alors que dans nos pays, une fois que vous avez un bac A, l'école de médecine ne va probablement pas vous accepter. Donc, ça fait que, bon, quand vous faites un choix, ça vous bloque pendant longtemps. Et moi, j'ai vu la plupart des applications qui sortent aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui ont commencé par faire de l'informatique ou même par faire des études scientifiques. C'est des gens qui ont fait des littératures. À un moment donné, ils se sont dit, écoute, j'ai besoin de 3 mois, 6 mois pour me reconvertir. Je vais être informaticien, je vais créer des applications. Et ça se fait. Il faut qu'on soit là où les gens sont flexibles, où ils peuvent changer de direction dans leur vie aussi facilement, qu'ils ne soient pas bloqués à être ingénieurs toute leur vie ou à être littéraires toute leur vie s'ils veulent changer.
Alors, ça m'amène à reposer cette question à Eric Abaté. Est-ce que au niveau africain, les gouvernements ne sont pas un peu bloqués? Parce qu'effectivement, comme Bagassi le disait tout à l'heure, si vous avez fait des études littéraires, on pense que votre destination, ce ne sont que des matières, je vais dire, des professions qui sont liées à ce domaine, et pareil pour le domaine scientifique.
Oui, cela rejoint justement la nécessité de refonder, n'est-ce pas, nos cadres éducatifs. C'est pour ça que nous parlons au niveau du Cameroun, nos sociétés parlent des états généraux de l'éducation. Donc, il est question de remettre à plat, n'est-ce pas, ces cours-là, afin de pouvoir former l'homme de demain, l'homme de l'émergence que nous prononçons. Parce que nous pensons que nous autres, si nous repensons effectivement les parcours des uns des autres, nous allons nous rendre compte que qui a dit à l'ingénieur qui n'était pas en droit de parler des problèmes sociaux, si tu veux pour cela de s'imposer quand ce sera dans un livre de ressources sociales et de ressources humaines, pour pouvoir en parler. Parce que même en industrie, il y a des problèmes sociaux en industrie. Qui peut dire aux techniciens radio de ne pas pouvoir parler des problèmes managériaux, par exemple, dans son entreprise? Je ne crois pas. Ce que nous voulons faire comprendre, de revenir sur les ressources dites externes, moi je pense que nous ne serons d'aucune utilité si l'externe ne sait pas s'en servir. Ce qui suppose une connaissance de leurs fonctions, de leurs effets possibles, mais aussi du mode opératoire. Donc nous pensons que de plus en plus, nous sommes en train de repenser d'ailleurs, je vous prends une grande précision de notre République, l'ENAM. De plus en plus, nous voyons des scientifiques qui font leur apparition à l'ENAM. Ça veut dire que quelque part, il y a un changement d'orientation.
Voilà.
Vous voyez des licenciés en mathématiques, en physique, qui savent faire un secteur de prix, poids et mesure.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. On va finir par cette réaction de Facebook de Ndoumbia Ousseni qui dit la littérature, car elle est comme une étude qui permet aux générations futures de rester en contact avec les générations passées. Bagassi, un mot pour terminer?
Oui, je pense que avec cette tendance, depuis ces dernières années, les filières littéraires ont pris un coup parce qu'elles ne sont pas assez valorisées, elles ne sont pas au cœur des priorités. Les étudiants aussi ne considèrent pas bien leurs collègues qui étudient la littérature.
Merci, c'est terminé pour votre avis de ce mardi. John Lyndon était à la présentation, Fred assurait la production. Bonsoir.